On commence par les titres avec vous, Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. 3 mois après son arrivée au pouvoir à Londres, Theresa May va s'exprimer pour la première fois ce soir devant ses collègues européens lors du sommet qui s'ouvre à Bruxelles. Les négociations sur le Brexit s'annonceraient complexe. Madame May souhaiterait en effet appliquer un contrôle de l'immigration des citoyens de l'Union tout en restant dans le marché unique. Explication de cette position avec Antoine Gignot tout à l'heure. L'autre difficulté pour les 28 et de ce sommet, c'est la signature du traité de libre-échange avec le Canada, car malgré les pressions très fortes de toutes parts sur la Wallonie, les Wallons refusent toujours de céder, le Parlement en tout cas, le président du Parlement. La Commission a donné à la Belgique jusqu'à demain, qui est le second jour donc de ce sommet, pour qu'elle s'aligne sur les 27 autres pays de l'Union européenne, dossier suivi par Anne-Laure Chouin. La guerre en Irak avec une unité d'élite de l'armée, des miliciens kurdes aussi qui font mouvement en direction de villages autour de Mossoul avec l'appui de la coalition internationale. L'objectif des combattants donc c'est d'encercler maintenant la ville avant un assaut qui est prévu dans quelques semaines. On retrouvera sur place Philippe Randé et pendant ce temps à Paris se tient une conférence internationale sur l'avenir de Mossoul. François Hollande met en garde contre la fuite de djihadistes de Mossoul vers Raqqa. Compte rendu avec Sarah Maquet. On dira un mot de la politique française avec cette surprise du premier tour de la primaire chez les Verts. Cécile Duflot qui n'arrive qu'en troisième position, moins de 25% des voix derrière l'eurodéputé Michel Rivasi et Yannick Jadot. Analyse avec Sophie Delpont. Voilà pour quelques-uns des titres. On retrouve donc tout de suite à Bruxelles, Olivia Jesbert.
Et on vous retrouve à midi et demi effectivement pour votre journal développé. Antoine, merci, à tout à l'heure. Première partie de la Grande Table, tout de suite jusqu'à midi et demi. Bonjour à tous, nos voisins, les Belges, mais oui, nous y sommes. Zoom à Bruxelles, plus précisément. Zoom encore à Beaux-Arts, au lieu de la culture. Danse, musique, cinéma, architecture, littérature. Toutes les disciplines sont rassemblées au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. En direct et en public jusqu'à 13h30, dans le cadre des journées de Bruxelles, organisées par l'Obs sur le thème « La fin de l'Europe ». Et après, dans la deuxième partie de la Grande Table, nous reste-t-il des valeurs en commun? On en parlera avec le philosophe allemand Marcus Gabriel et l'écrivain académicien belge Jacques de Decker. Mais d'abord, chorégraphe flamand, Alain Platel est là avec Nicht Schlafen, sa nouvelle création. Présentée à la Biennale de danse de Lyon, Ne dormez pas, en allemand, va parcourir les scènes d'Europe. Une danse pour cheveux morts, le décor est né d'abord, animal, morbide, vital, qui s'inquiète de la déconstruction du monde et du destin européen. Bienvenue sur France Culture et sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
Emma, Out of Context for Pina, Gardenia, Tauberbach ou encore Coup Fatal l'ont propulsé comme l'un des plus grands chorégraphes de son temps en Europe et au-delà. Il dirige depuis 1984 les Belges Ballets C de la B, C comme contemporain, B comme Belgique. Alain Platel, bonjour.
Bonjour.
Vous entendez des voix parfois ? Non.
Dans quel sens ?
Ah, je ne sais pas, à vous d'interpréter. Est-ce que ce lieu vous parle, Alain Platel ?
Ce lieu ici,
oui, le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles.
C'est un endroit que je visite très peu, je dois dire. Moi, je me promène surtout dans le centre de Bruxelles et je suis lié au Caviez, au Théâtre National de Bruxelles, côté flamand. Et non, Beaux-Arts, c'est pas vraiment un endroit que je fréquente beaucoup.
Alors ici, c'est un temple de la culture qui accueille oui. Absolument toutes les disciplines. Ça va du théâtre, je le disais, à la danse, l'architecture, la peinture, le cinéma. Et j'en oublie sûrement. Est-ce que la danse, votre danse, Alain Platel, est un art, un bel art, pour reprendre cette idée du Palais des Beaux-Arts ? Est-ce qu'elle pourrait être accueillie ici ?
Ah, certainement, il y a des spectacles qui sont présentés ici. Mais si vous parlez de la danse en général, si elle a encore quelque chose à dire, parce que je sens cette question derrière votre question, ça, je ne sais pas. Je sais que j'ai choisi un métier que j'adore et que je continue à faire parce que elle m'intrigue encore toujours et que je vis une vie excitante autour de ça. Mais si elle parle aujourd'hui, en général, je ne sais pas.
Ça, c'est vraiment toujours un mystère avec vous. Vous avez appris la danse en autodidacte. Quel a été le déclic? Vous dites, j'ai choisi ce métier. Quel a été le moment où vous êtes allé vers la danse, droit devant, où vous êtes approprié cette discipline, cet art?
C'est vrai que moi, j'ai étudié la psychologie et la pédagogie. Et c'est un peu un hasard que je suis tombé dans ce métier. Je crois que pendant les années 80, en Flandre, il y avait plein d'expériments qui se faisaient. Qu'on n'avait pas une histoire très grave ou très lourde au niveau de la danse et la danse contemporaine, ça veut dire que c'était vraiment un terrain vague et tout le monde pouvait expérimenter. Je crois que, comme beaucoup de gens de ma génération, j'étais très intrigué et stimulé par le travail de Pina Bausch. Je la considère comme la mère et la grand-mère de tous les chorégraphes d'aujourd'hui. Et elle nous donnait l'impression que tout le monde pouvait danser ou pouvait faire des spectacles aussi. Et je crois qu'avec ce côté un peu prétentieux et arrogant dans le temps, j'ai quand même essayé de le faire. Et puis, petit à petit, je suis vraiment tombé amoureux de ce métier. Et c'est la raison pour laquelle je le continue jusqu'à aujourd'hui.
Vous avez reconnu notre générique, le générique de la Grande Table, qui est aussi la bande-son du film de Wim Wenders, hommage à Pina Bausch. Hein. Oui. Ne dormez pas, en allemand « Nicht schlafen », Alain Platel, votre dernière création. C'est d'abord une expérience de vie et de mort. On peut résumer ça comme ça avant d'en parler plus en détail?
Je crois que si, ça fait maintenant un mois qu'on tourne avec cette pièce et je commence à la découvrir et je commence aussi à l'interpréter un peu plus parce que je crois que au début et à la première c'est encore toujours un genre d'énigme et j'ai l'impression quand même qu'elle touche ce qui se passe aujourd'hui. Elle fait un peu the sign of the times.
Alors l'ambiance de cette création, Alain Platel, est assez sombre. Hein. Le mouvement frénétique, par moment, le décor d'une religiosité animale. Il y a cette toile déchirée, trois carcasses de chevaux, et tout autour comme un étrange rituel. Début de Nicht schlafen, Alain Platel, les danseurs se livrent à un corps à corps presque sans fin. Ils se battent, ils déchirent leurs vêtements. On se demande tout de suite pourquoi ils deviennent fous. Est-ce que vous savez, maintenant que l'énigme est en train de se lever petit à petit, sur cette scène hôtel, à quel saint ces hommes sont-ils en train de se vouer? De quel culte ils sont en train d'honorer? À quel rite funéraire, nous, public, on est en train d'assister?
Bon... Pour contextualiser un peu, le point de départ de ce projet, c'était la musique de Mahler. Et comme c'était pas le grand amour entre moi et cette musique, j'ai dû le
Vous êtes un Bach.
Fan de Bach, oui, oui, absolument. Mais donc ça m'a pris du temps pour découvrir ce que j'avais envie de faire sur cette musique. Mais je crois qu'en lisant, surtout autour de l'auteur, le compositeur Mahler, et du temps dans lequel il vivait, que j'ai découvert aussi que c'était quand même un artiste qui était capable de capter ce qui se passait dans son temps à ce moment-là. Et comme j'ai lu un livre de Philippe Blom, Les années de la vertige, qui décrit justement le début du XXe siècle et qui fait des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a quand même plein de choses qui se passent aujourd'hui qui font référence à ce que Mahler a vécu au début du XXe siècle. Et donc, je croyais que c'était possible d'utiliser cette musique pour parler et montrer de ce qui se passe aujourd'hui, surtout au niveau sentimental, je dirais.
Effectivement, vous vous êtes appuyé, vous, le fidèle de Bach et de Monteverdi, pour la bande-son hein, de cette pièce. Vous avez fait appel à Gustav Mahler. Ce projet, d'ailleurs, devait s'appeler, il paraît au départ, le Mahler Project. Oui. Gustav Mahler, qui est quand même ce compositeur autrichien aux 10 symphonies entre romantisme un peu tardif et accent tragique, qui ont marqué le passage du XXe siècle. Il y a pour vous donc un écho entre sa musique et notre époque que vous avez mise en danse, quelque part. Et du coup, ça, c'est la deuxième partie du processus créatif, partir de la musique, ça c'était une première. Hein.
Oui,
habituellement,
oui.
Vous pensez d'abord plutôt la danse, la chorégraphie, et vous allez chercher une musique sur laquelle vous appuyez. Là, pour la première fois, la danse et la musique se construisent ensemble, se soutiennent l'une et l'autre. Hein.
Exactement, oui. C'est vrai que la musique était un point de départ, mais pour moi aussi, toujours les gens avec qui je travaille. C'est-à-dire que on travaille pendant des longues périodes d'improvisation et j'ai toujours envie de chercher le matériel que les danseurs ont envie de partager entre eux et de montrer sur scène. Donc c'est quelque chose qui se passe en dialogue entre eux et moi et dont leur histoire personnelle est très importante.
Alors il y a 8 hommes et une femme.
Et
hein.
Une femme, mmh. Oui.
Donc un corps à corps qui reste quand même assez viril. À ces moments d'harmonie succèdent des moments de lutte. Qu'est-ce que vous vouliez traduire à travers ça? La difficulté qu'on peut avoir aussi à faire, à parvenir à un contrat social dans ces moments?
Mais je crois que ce qu'on a découvert pendant les répétitions, non pas seulement que cette musique elle est très lourde et elle parle vraiment d'une période tragique et très lourde, mais au même temps...
Oui, c'est l'ambiance du Palais des Beaux-Arts. Je vous dis, on peut intégrer toutes les musiques.
Mais en même
ça
temps...
Ça va s'associer avec Mahler, vous allez voir.
Oui, voilà. au même temps, quand je parle avec je parlais avec les danseurs dans ce projet, je découvrais aussi que ils parlent des sentiments qui sont très parallèles avec ce que j'ai lu dans le livre de Philippe Blom. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sentent perdus, qui se sentent vivre dans un monde chaotique où il y a très peu d'espoir. Et où on attend chaque jour une grande catastrophe.
Ce livre de Philippe Blom, pas encore traduit probablement en français, un essai de cet historien journaliste allemand, The Vertigo Years, hein, qui raconte comment les années 1900 à 1914 en Europe ont fait basculer ce continent à l'implatel. Le chaos est par essence quelque chose de désordonné. Vous avez parlé dans Nichtschlafen d'une chorégraphie en forme de chaos dessiné. Vous pouvez nous dessiner un chaos, Alain Platel ?
Ça, c'est vraiment mon obsession, je crois. depuis le début, j'ai toujours eu l'envie de mettre le chaos sur scène. Mais peut-être aussi avec le but d'essayer de le contrôler.
Et le dessiner, vous y arrivez ou pas ? Vous préférez dessiner
quand
des boutons ?
quand j'entends les retours du public, oui.
Qui gagne à la fin de Nichtschlafen ? C'est la mort sur l'homme ou c'est l'homme sur la mort ? Qui arrive à dominer, à domestiquer ce chaos ?
Je crois que c'est l'homme qui gagne. Je crois que quand je vois la pièce, elle est très lourde, elle est très sombre, mais les dernières 20 minutes, là où on utilise un mouvement de la deuxième symphonie, qui s'appelle la symphonie de la résurrection, on voit quand même que l'homme reste toujours très créatif, il va toujours trouver des solutions, même si le temps nous dit que on est dans un grand moment de désespoir.
Le chorégraphe Alain Platel est notre invité ce midi en direct du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles dans le cadre de ces journées organisées par notre partenaire de l'OPS. Et là, j'ai envie de dire, putain, c'est quand même vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. Alain Platel, vous diriez comme le chanteur Arnaud, avec un ou
oui,
deux putains.
Oui, oui, oui. Ah, j'adore ce mec. Mm-hmm. Oui.
Vous restez un Européen convaincu, comme lui.
Attends, mais ça, c'est une autre discussion. Je crois que l'Europe, c'est un petit pas pour moi. C'est un petit pas pour aller plus loin, là où on va découvrir ou comprendre qu'on est tous les mêmes sur cette petite boule qui s'appelle la Terre.
Bon, On ouvre cette discussion et on la poursuit dans quelques instants. Le chanteur Arnaud, on l'aime, vous savez, des deux comtés de la frontière, Dancing Inside My Head, un film sur lui en salle en Belgique depuis hier, où ça danse aussi, mais dans sa tête, un pogo sûrement dans la tête d'Arnaud, Dancing Inside My Head.
Quel bruit fait mon cerveau quand je pense à rien? Je ne suis pas malheureux, mais je suis pas bien.
Je zit soms zodanig in één gedachten dat ik soms pezen moet zitten met zijn dag.
Ik zit soms in met mijn kop tussen het verleden en nu. Ik kan dat niet gaan. La vie des autres, c'est pas une vie pour toi. Je chante une chanson de n'importe quoi.
No, extrait de Dancing Inside My Head, une chanson, un titre de lui de 1993, extrait de son album Idiot Savant avec un S. Nous sommes tous des idiots savants, Alain Platel. Vous pourriez imaginer après Bach, après Ballard, une chorégraphie sur une chanson d'Arnaud?
C'est chaotique. J'ai jamais pensé. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais je crois que c'est déjà tellement fort en soi-même que je ne sais pas si on a besoin d'en voir plus que Arnaud lui-même dessus.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
France Culture, il est midi 18 à Bruxelles, à Paris aussi et partout en France. Quelques minutes encore avec le chorégraphe Alain Platel et sa création Nicht Schlafen ici en direct et en public du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Alain Platel, pouvez-vous nous décrire ce que vous avez devant les yeux?
Des très beaux gens.
C'est vrai?
Oui.
Vous pouvez les faire danser?
En ce moment, non.
Vous pouvez créer le chaos dans cette salle? Je trouve que tout le monde est
trop
sage, non?
Oui, voilà.
Non?
Oui, oui.
Comment vous faites dans ce moment-là? Vous baissez les bras?
Oui, c'est ça.
Ah, voilà.
Je pourrais pas.
Le monde et la souffrance sont une fois encore au cœur de vos réflexions quand même, Alain Platel. Vous le disiez, le chaos, je l'aime. Est-ce qu'on va si mal?
En ce moment, oui, je suis vraiment convaincu. Je suis pas le seul, je crois, qui le dit. On voit des choses, on voit des gens, on voit des politiciens qu'on pouvait pas s'imaginer il y a 20 ans. Et donc, oui, il y a plein de choses qui sont en train de changer. Mais moi, je suis assez optimiste, hein, comme je disais tout à l'heure, aussi dans la pièce. Je crois beaucoup à la créativité de l'être humain. Je viens de lire un article de... d'une philosophe américaine, Rebecca Solnit, qui parle du fait que là, les sociétés qui sont vraiment dans le désordre et dans le plus grand désastre, il y a quand même des choses au niveau humain qui se passent, qui sont très beaux et qui sauvent à chaque fois cette société. Et c'est quelque chose que, quand je le lisais, qui me donnait beaucoup d'espoir, parce que je crois qu'elle a raison. Moi, j'étais dans des endroits comme par exemple à Kinshasa ou dans les territoires occupés, où je voyais des gens qui vraiment ont très peu d'espoir. Et en même temps, quand je voyais ce qui se passait au niveau humain, de solidarité, d'empathie, etc., et des choses qui sortaient de là, ça me donnait toujours beaucoup d'espoir.
En Palestine, un terrain sur lequel vous êtes très engagé, Alain Platel, en même temps, vous ne pensez pas que l'art, une pièce de théâtre, une chorégraphie, puisse changer le monde. Là-dessus, vous semblez assez, pas pessimiste, mais peu engageant sur le pouvoir de la création.
Non, ça ne peut pas changer le monde, mais ça peut aider un petit peu à changer le monde, je crois.
Ou les regards. Vous avez parlé de création, vous avez travaillé pour la première fois, je crois, avec la plasticienne flamande Berlinde de Brückere, qui signe ici la scénographie de Nicht Schlafen. C'est une première hein, collaboration.
Oui. Je connais son travail depuis maintenant presque 20 ans, et j'ai toujours utilisé des images de son travail dans le studio, mais je l'ai rencontré il y a 6 ans, et depuis, on avait envie de faire quelque chose ensemble, et... Maintenant, ça s'est passé.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces éléments de scénographie de métaphorique? Qu'est-ce qu'elle a voulu raconter, montrer dans ce décor, on le disait, composé avec un hôtel, UTEL, avec ses corps, ses cadavres de chevaux, au nombre de 3, cette grande bâche déchirée. En quoi ça s'inspire de son univers et en quoi ça fait écho à votre univers, Alain Platel?
Il y a deux éléments que vous décrivez dans... L'un représente la mort, absolument, les chevaux, et l'autre, c'est comme une petite partie d'une très grande couverture. Et je crois que ça, c'est le côté chaleureux qu'elle a voulu amener dans la pièce. C'est comme si cette grande couverture essaye de embrasser les gens qui sont sur scène. Les chevaux, pour elle, représentent non pas seulement la mort, mais aussi la Première Guerre mondiale. C'est quelque chose qu'elle a choisi, il y a 15 ans, à créer, des sculptures avec des chevaux, qui, justement parce qu'on lui demandait de représenter la Première Guerre mondiale. Et comme elle a vu pas mal de photos où les chevaux morts étaient très présents, à cette époque-là, elle a choisi ce métaphore.
Alors, une scénographie signée par une plasticienne et une direction musicale sur ce spectacle, cette pièce Nicht Schlafen de Steven Prengels, un compositeur flamand, là encore un de vos complices, un de vos amis, Alain Platel. De Malheur, il dit, tel un sismographe, sa musique enregistra les tensions souterraines des années avant la Première Guerre mondiale. L'époque de Malheur a beaucoup de parallèles avec la nôtre. On va écouter un extrait de Chant de la nuit, symphonie numéro 7 de Malheur, arrangée par Prengels.
Thank you.
Et dans ce décor sonore se glissent également des chants congolais, un texte de Nietzsche extrait de Ainsi parlait Zarathoustra. Alain Platel, vous évoquiez l'écho entre cette musique et notre époque. Quels sont les ingrédients pour vous qui sont explosifs quelque part aujourd'hui, ce parallèle que vous faites entre le début du XXe siècle et aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets pour vous? Quelles sont les causes? Ce serait quoi? La montée des populismes en Europe, aux États-Unis, le terrorisme? Vous citez souvent Internet aussi comme une source de grands changements et de basculements possibles dans notre époque.
Oui, parce que tous les autres choses sont plutôt des conséquences. Je crois que ce que Philippe Blom explique bien dans son livre, c'est que il y a des vagues de grands changements qui se passent dans le monde et dont les gens ne sont pas capables de les gérer très vite et très directement. Ils voient les mêmes conséquences qui se passent, des gens qui deviennent qui essayent de se protéger, et au niveau politique ça se traduit très souvent dans des directions de droite et d'extrême droite, juste pour se protéger. Et comme le début du XXe siècle, il y avait beaucoup de changements au niveau de vitesse, des choses qui pour nous maintenant sont très normaux, c'est-à-dire les voitures, téléphones, enfin au niveau de ces appareils. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe avec Internet qui est beaucoup plus fort, c'est-à-dire que ça a des conséquences sur tout ce qui se passe dans nos sociétés. Mais il y a plein de gens qui découvrent aussi que ça va changer les choses aussi profondément, et on les voit déjà en ce moment.
Est-ce qu'on est dans un moment charnière pour vous, où ce monde serait sur le point de disparaître? Est-ce que vous abondez quelque part dans le sens des organisateurs de cette journée, de ces journées de Bruxelles, qui ont choisi pour titre un poil provoquant de ces discussions, la fin de l'Europe, point d'interrogation?
Non, moi je suis pas si pessimiste que ça. Je crois que, comme je disais avant, les grands turbulences, les grands changements peuvent aussi provoquer des choses très positives qu'on ne voit pas encore nécessairement. Mais en ce qui concerne l'évolution du monde, comme je viens de dire, je crois que l'Europe, pour moi, c'est un petit pas de quelque chose qui est plus grand, auquel on doit aller, je suis convaincu.
Mais toute fin peut conduire d'ailleurs de toute façon à une résurrection, non?
C'est le
surnom donné à la symphonie numéro 2, justement, de Mahler. Et c'est ce que raconte aussi Nietzsche, Schlaffen, n'est-ce pas?
Je crois, oui.
Hör auf zu beben, bereite dich zu leben. Hein. Préparons-nous à vivre, Alain Platel. Un grand merci à vous. Nicht Schlaffen est à voir absolument du 8 au 10 novembre au Maillon de Strasbourg, mi-novembre à l'Opéra de Lille, fin novembre sur la scène nationale Bonlieu d'Annecy. Et puis la pièce va continuer sa tournée française, belge et européenne, hein, dans l'année à suivre, en 2017. Pensez groupe, dites-vous souvent, mais encore faut-il savoir quelle valeur on a en commun. C'est à suivre dans la grande table. Et vous restez avec nous, si vous le souhaitez, Alain Platel, jusqu'à 13h30. On va retrouver prochainement nos invités. Rendez-vous à 12h55 pour la deuxième partie de la grande table, en direct et en public du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Pour l'heure, on va retrouver le journal.